l'enregistrement du prochain Masque et la Plume.
Pardon ?
Oui, mais non.
Rendez-vous jeudi dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter. La voix est libre.
Bientôt 15h04 sur France Inter et vous retrouvez Daniel Mermet là-bas si j'y suis.
Salut Daniel, je donnerai mes soins à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. D'où ça peut bien être tiré, ça? Moi, je suis médecin urgentiste dans la belle ville d'Aubagne et je travaille pour le service public. C'est un des moyens que j'ai trouvé pour essayer de respecter cet engagement. Voilà, je voulais dire merci à Oriane pour le témoignage qu'elle a laissé hier. Que ça permet de se sentir un peu moins seul concernant l'idée qu'il faut qu'on soit peut-être rémunéré type service public pour exercer notre activité tranquillement et s'inquiéter surtout de soigner et plus de gagner de l'argent.
Bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu dans les dernières émissions le terme système de santé. Il s'agit d'un abus de langage dans lequel vous êtes malheureusement tombé, cher Daniel. Car il faudrait dire plutôt système de gestion de la maladie, vous ne croyez pas, ce qui est singulièrement différent. Si nous avions un système de santé, il n'y aurait pas grand monde de malades. La sécurité sociale financerait une alimentation saine plutôt que financer les médecins. Dans un pays comme le nôtre, où l'industrie pharmaceutique ainsi que l'industrie médicale sont florissantes et ont une part importante du PIB, quelqu'un en bonne santé n'a aucun intérêt pour l'économie française. On vous préfère malade, messieurs, dames. Enfin, quelle belle idée humaniste, la sécurité sociale, mais quel merveilleux cadeau offert aux médecins qui, à l'époque, étaient nombreux à être députés ou sénateurs. Quelle incitation à la surconsommation d'actes médicaux. On voit le résultat aujourd'hui. Je le répète, si nous avions un système de santé, nous ne serions pas aussi nombreux à être malades.
Bonjour, c'est Claire à Nantes. Je vous appelle au sujet de vos émissions sur la manif des étudiants et les revendications des médecins. Je suis souvent très intéressée par vos émissions et j'aime votre curiosité, mais alors là, vraiment, non. Mon mari est chirurgien et je suis fière de lui. Si c'était vous sur la table d'opération avec par exemple un cancer du poumon, ne seriez-vous pas rassuré que la personne qui vous opère et qui, oui, en le faisant, va vous sauver la vie, que cette personne ait fait 15 ans d'études, vienne vous voir ensuite dans votre chambre tous les jours, même le dimanche. Certes, cet homme-là ne gagne pas le SMIC, même en secteur 1, car il a fait le choix du secteur 1 où on ne prend jamais de dépassement d'honoraires. 15 ans d'études, pas vraiment 35 heures par semaine, le double serait plus près de la vérité. Si on ramène ce qu'il gagne au nombre d'heures effectuées, à ses responsabilités. Hier, hasard de la vie, il a passé sa journée au bloc, à opérer un patient, à le réopérer à cause d'un problème de saignement inexpliqué. Fin de sa journée de travail à 1h du matin, à 2h, téléphone, le patient est mort. Se rendormir après n'est pas si simple. Je ne suis pas sûre que je lui envie ces responsabilités-là. Et vous ? Et puis vous répétez avec raison que vraiment on n'y comprend décidément rien à ces manifs d'étudiants d'une part et des médecins d'autre part. Mais réécoutez votre étudiante en troisième année, interviewée dans votre émission, elle ne sait même pas que quand on est installé en libéral, justement on n'est pas salarié. C'est votre rôle, et vous ne l'avez pas rempli ce jour-là, d'essayer d'expliquer tout ça à vos auditeurs et de trouver la bonne personne pour répondre à vos questions.
Oui, ben là j'ai écouté ton émission, là, très bonne comme d'habitude, là, je suis plombier, j'écoute ça sur mes chantiers. Mais c'est pas en tant que plombier que j'appelle, c'est en tant que compagnon d'une jeune médecin. Alors voilà, au répondeur, il y a un petit message quand même qui m'a un petit peu agacé là, de la personne avec un gentil accent du Sud et des maximes toujours assez lapidaires. Voilà, on parle effectivement de combien gagne un médecin, mais bon, un médecin, ça gagne pas mal si ça travaille 60 heures par semaine. C'est pas le cas de ma compagne parce qu'elle a envie d'avoir une vie de famille. Et puis bon, bah, sur aussi le fait qui m'a un petit peu agacé, c'est que les gens d'un certain milieu ont besoin de vivre en ville pour avoir un cinéma, un restaurant, etc. Bah, je peux lui répondre que moi, je suis plombier, tu vois, et puis moi, j'aime bien aussi de temps en temps faire un cinéma et un restaurant, et que si un jour, on a envie d'aller à la campagne, autant que ça soit un choix et qu'on y réfléchisse tous les deux pour nos gosses, pour des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est des tas de trucs auxquels on peut penser. Donc les médecins, c'est pas des grands méchants qui gagnent plein de pognon, c'est aussi des gens qui se bagarrent tous les jours pour avoir une ALD ou un 100%, que régulièrement la sécurité sociale leur refuse. Donc voilà, c'est juste un petit mot pour nuancer certains propos qui des fois peuvent être un peu agaçants, mais qui font le charme de l'émission. Allez, ciao Daniel, merci.
Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis dans le Vaucluse.
Je suis médecin généraliste et j'ai écouté hier très attentivement l'émission de Daniel Mermet. Et j'ai écouté très très attentivement les dires du sociologue qui regardait de près ce que faisaient les médecins. Très intéressant ce cas. Il y a un petit truc qui ne va pas quand même, c'est sur le salaire prétendu des médecins. Alors, en tout cas, je parle pour les médecins généralistes. Ils donnaient un salaire moyen de 6 000 euros par mois, ce qui fait plus de 72 000 euros par an net, ce qui veut dire brut quelque chose comme 100 000 euros par an, ce qui veut dire que chaque médecin généraliste fait, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, 90 patients par semaine. Ça me paraît beaucoup ces chiffres, c'était des chiffres qu'on avait dans les années 60. Depuis, les médecins ont progressé en nombre et le gâteau, si je puis m'exprimer encore comme ça, est beaucoup plus réduit. Donc si les chiffres, je ne les mets pas en cause, à mon avis, sont très 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 majorés. Et s'il y a des gens qui font peut-être ces chiffres-là, à mon avis, il y en a beaucoup qui font même pas la moitié.
Voilà, on a trouvé le bouton pour permettre au monsieur de causer. De causer après tous ces messages dont je vous remercie, chers AMG, auditeurs et auditrices modestes et géniaux et géniales. Beaucoup de réactions suite à nos émissions de jeudi et vendredi sur le monde médical, sur la médecine, le meilleur système de santé du monde, plutôt sur le système de santé. Je voudrais répondre à ce dernier message concernant ceux qu'ils gagnent vraiment, parce que c'est une question évidemment. Les médecins eux-mêmes se plaignent d'être vus comme de richissimes géniards. 10% des Français, disait un généraliste, nous considèrent comme de richissimes géniards. Alors voyons un petit peu de plus près ces revenus. Il y a énormément de messages là qui sont arrivés dans le répondeur de la base. J'y suis, on continue aujourd'hui sur ce sujet à cause de vos messages. Alors concernant les revenus, c'est très effectivement, il y a beaucoup de disparités, même si de façon générale, le monde des médecins, alors pris depuis l'anesthésiste jusqu'au remplaçant, gagne plutôt bien sa vie, plutôt mieux que la majorité des Français. Il faut rappeler que seulement 10% des Français gagnent plus que 2800 euros net par mois. Alors, si vous devez choisir, préférez un anesthésiste réanimateur, la moyenne mensuelle chez les anesthésistes réanimateurs, revenu mensuel net avant impôt, c'est une moyenne de 15 914 euros par mois. Radiologue 12 424, chirurgien 11 452, etc. Ophtalmologiste 11 307, ça réduit, ça diminue de plus en plus. Chirurgien dentiste 7 565, rhumatologue 6 800, généraliste 6 572 euros mensuels. Voilà, et un médecin remplaçant fait autour de 3 615 euros. Alors, il s'agit évidemment de moyenne, vous connaissez évidemment tout ce que ça, le calcul moyen peut avoir d'imprécis. Par exemple, je reviens à mon anesthésiste, lui, l'anesthésiste va être entre 31 247 euros mensuels et 4 694. Le salaire moyen, les revenus moyens est entre les deux. On a en 2008 établi très précisément, selon la direction de la recherche, de l'évaluation et des statistiques, le revenu moyen des médecins en France, il est de 8 117 euros mensuels. Voilà, ça situe un peu, ça donne une idée des revenus de nos médecins, chirurgiens, anesthésistes, etc., qui justifient leurs revenus par les années d'études qu'ils font et qu'ils ont fait. Alors, on est très nombreux à avoir fait des années d'études, et surtout, on est très nombreux à ne jamais cesser de faire des études. Vous prenez par exemple certains journalistes, dont je fais partie, qui ne cessent cessent tout au cours de leur vie de faire des études et d'estimer effectivement qu'ils peuvent en tirer un certain revenu. Concernant les dépassements, la proportion des médecins qui fixent leurs tarifs, c'est-à-dire qui s'autorisent des dépassements, les chirurgiens 77%, les ORL 56%, ophtalmo 54%, gynécologue 53%, etc., etc. Et on descend jusqu'aux généralistes qui, eux, dépassent les tarifs à hauteur de 11% seulement, de même les radiologues. Là aussi, quelques indications sur les revenus des médecins. Je dis ça parce qu'on a eu beaucoup de messages qui disent « ils gagnent trop, ils gagnent pas assez, on gagne pas assez, on gagne trop » par rapport aux difficultés de toutes sortes. Il est évident que c'est un sujet particulièrement, c'est le cas de le dire, névralgique que celui de la santé, où on voit vraiment s'affronter d'une manière cruciale, la deux conceptions de l'existence, de la vie, c'est entre les forces libérales, inégalitaires, et l'idée du bien public et de l'intérêt général incarné par la sécurité sociale et cette conquête qu'a été la sécurité sociale. C'est vraiment deux forces qui s'opposent avec des visages, avec des physiques, avec des hommes et des femmes qui défendent chacune de ces deux visions et qui sont en scène actuellement avec, j'allais dire au milieu, mais non, pas vraiment au milieu. On aimerait que ce soit au milieu que se situe le gouvernement, mais c'est pas le cas. Le gouvernement est là très coire et très timoré et très intimidé, très impressionné face à la force, à la puissance du marché, de la cupidité en ambiante. Je répète un peu les mots, en caricature un peu, employés par Frédéric Pierru, qui est intervenu, sociologue, qui est intervenu dans l'émission de vendredi, et qu'on va retrouver aujourd'hui. Vous avez compris, c'est notre sujet. Voici encore pas mal de vos réactions sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Monsieur Mermet, suite à votre émission d'hier, je vous signale que le mercredi 12 décembre a lieu une manifestation devant le ministère de la Santé. Elle est organisée par le comité de défense de l'hôpital d'Argenteuil. Il faudrait que l'on soit très 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 nombreux. Si vous pouvez diffuser cette information, ce serait parfait. C'est Yvette à Beson.
Bonjour, un droit de réponse à l'émission d'hier, le meilleur système de santé du monde. Je suis médecin généraliste, 10 ans d'études. Sur l'ensemble des médecins généralistes, il y en a 25 à 30% qui sont des smicards. Il y en a qui décident de se mettre en secteur 2, ils sont bouffés par les charges sociales. URSSAF, caisse de retraite, assurance professionnelle, et j'en passe, c'est des meilleurs. Alors si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui se mettent pas dans le côté médical, parce qu'on regarde les quelques médecins spécialistes qui gagnent bien leur vie, et alors est-ce que c'est une honte en France de gagner sa vie? En fait, j'ai une anecdote, j'ai fait ramener la cheminée chez moi. 50 euros pour un quart d'heure de boulot. Une visite de médecin, c'est 30 euros. Il n'y a pas quelque chose qui va pas?
Alors bonjour tout le monde, moi j'appelle juste, je suis en train d'écouter votre émission, et j'ai écouté celle d'hier sur notre système de sécurité sociale. Et honnêtement, j'en ai marre de votre angélisme, j'en ai marre de l'angélisme de vos auditeurs. À un moment donné, arrêtons de cracher sur tout ce qui bouge. On ne peut pas reprocher à un médecin de ne pas vouloir s'implanter dans un désert médical si il n'a pas envie de caler, même pour 55 000 euros par an. Il faut aussi se mettre à leur place, je pense. Hein. Moi, si demain, on me propose de doubler mon salaire, peut-être que je songerai deux fois de résidence, et c'est pas pour autant que je suis quelqu'un égoïste, égocentrique, et qui pense qu'à l'argent. Je pense qu'il faut à un moment donné tous être capables de se regarder dans un miroir et voir un peu la réalité des choses en face, quoi. Que le dépassement des honoraires, moi, ça me choque pas. Et ça ne me choque pas. Des gens qui bossent de 7h du matin à 21h le soir, qui reçoivent des dizaines et des dizaines de patients par jour en urgence, qui touchent 5, 10, 15, 20 euros de plus par consultation, honnêtement, ça me choque pas, parce que ça reste des gens incroyables.
Oui, bonjour Daniel, bonjour là, si je suis. Je vous téléphone, voici Joséphine de Saint-Étienne. Hein.
Écoutez, je vais vous dire, moi j'ai un médecin traitant, un médecin généraliste, et puis écoutez, l'autre jour il me disait, mais moi, écoutez, je ne veux pas faire la grève, je ne veux pas revendiquer parce qu'on se gagne très bien la vie. On gagne très bien la vie et on se met à côté de personnes qui n'ont pas de travail ou qui gagnent beaucoup moins que nous. Moi, je suis contente comme ça, je ne revendique rien du tout. C'est déjà très bien et pourtant, c'est un bon médecin. Hein. Tout le monde en est contente. Eh bien, il faudrait prendre l'exemple de ce médecin.
Oui, bonjour, je viens d'écouter votre émission, très intéressante. Je suis médecin généraliste installé secteur 1 en Bretagne. Depuis 21 ans et je n'ai jamais pratiqué de dépassement d'honoraires, donc je ne me sens pas du tout concerné par cela. En revanche, je peux témoigner du fait que eh bien, dans ma commune, le nombre des médecins diminue d'année en année, sans successeur, et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait peut-être se pencher pour savoir d'où cela provient. Ça, c'est le témoignage. La réflexion porte sur les propos de M. Frédéric Pierru, parce que lorsqu'il parle de l'adhésion des médecins à des réseaux de soins mutualistes, je voudrais quand même faire savoir que, à mon sens, cela rentre en infraction du code de déontologie et de santé publique aux articles correspondants. Je vois mal, à moins de méconnaître complètement le code de santé publique, des médecins à intégrer des réseaux de soins. Et d'ailleurs, je m'étonne que les mutuelles soient à ce point peu au courant de comment fonctionne la loi, puisqu'il propose des contrats qui sont opposables de par la loi et de par l'ordre.
Bonjour Morgane, je vous appelle de Besançon. Je pense que je ne serai pas le seul médecin à réagir à votre émission. D'abord, merci de l'avoir faite. Ça m'intéresse bien d'avoir des renseignements sur la pratique de la médecine et sur les salaires des médecins aujourd'hui, même si je suis dans le milieu, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de remise en cause au niveau de notre profession en général. Et puis juste pour dire que moi je suis médecin de PMI, je gagne 2000 euros par mois, donc j'atteins ni les 6000 ni plus, que je suis pour une médecine salariée, et que j'ai l'impression de faire un travail utile. Et voilà, juste pour dire que les médecins ne sont pas tous des médecins libéraux qui s'en mettent plein les fouilles.
Bravo Monsieur Mermet de dénoncer les abcès de notre société. Il y a un abcès énorme en ce moment dans l'Essonne, c'est l'évacuation sauvage des camps bidonvilles de Rome. Sans vergogne, la préfecture, la police en Essonne harcèlent les bidonvilles. On vient avec des tracteurs défoncer les cabanes. Les cabanes, c'est vrai, c'est rien, c'est des bouts de bois, mais c'est tout de même la seule richesse qu'ont ces gens. Leurs objets, casseroles, vélos sont aussi écrasés. On leur met des contraventions, oui monsieur, des contraventions sur des vélos. Je l'ai devant les yeux, une contravention de 100 euros, une autre de, je crois, 120 euros pour défaut de catadiopre, pneus usés, garde-boue en mauvais état, sécurité mauvaise. On a crevé des bidons de gens qui venaient chercher de l'eau sous prétexte que c'était de l'eau volée, alors qu'elles avaient été prises sur un robinet municipal ou sur une bouche à incendie, et les policiers ont crevé les bidons. Ce sont des agissements indignes de notre démocratie.
L'anonymat.
Qui êtes-vous, belle inconnue, qui m'avez mis la nuit venue? Qui êtes-vous, belle inconnue, qui m'avez mis la joie au cul?
Si je vous ai mis de la joie, j'en suis ravi, mais croyez-moi, le mieux à faire dans ce cas-là est de garder l'anonymat.
C'était Francine.
Et Georges-Philippe.
Salut. Salut.
On ne voit pas trop une mobilisation politique des assurés sociaux pour dénoncer la dégradation de l'accès aux soins. La politique avance masquée derrière la technique. Et donc, les gens ont du mal à lire les transformations.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Bassie J'y suis avec Antoine Chao et Frédéric Pierru, le meilleur système de santé du monde.
...21 boulevard de Strasbourg, à Paris, dans le 10e arrondissement. Cabinet médical, 2e et 3e étage sur cour.
Deuxième. Deuxième étage.
Docteur Dumazy, je suis généraliste à Paris, dans le 10e arrondissement, en secteur 1. Moi, mon activité, c'est plutôt 15 à 20 patients par jour, en sachant que c'est une demi-heure par patient, plus les visites, plus le temps administratif. Je finis souvent tard le soir. C'est moi qui choisis, hein. Ça encore, c'est la liberté justement du médecin, encore, c'est d'organiser un petit peu son activité comme il le souhaite. Bon, du coup, je gagne pas des masses non plus, parce que une demi-heure par patient, ça fait pas tourner la boutique très très vite. Hein. Actuellement, la médecine, si vous voulez gagner de l'argent, il faut travailler dans un petit cabinet qui vous coûte pas cher, un placard à balai avec peu d'entretien, et puis turbiner à toute vitesse, voir des patients toutes les 5-10 minutes, faire 60 actes par jour, à 23 euros, aller gérer vite. Sans doute pas prendre en charge très raisonnablement les gens, dans la globalité, les pathologies chroniques, lourdes, qui demandent des soins compliqués. Mais je pense que c'est du choix du médecin. Il y a des patients qui ont besoin d'être vus en 10 minutes et puis c'est réglé, puis comme ça ils sont contents. Puis il y en a d'autres qui ont besoin de parler un peu plus, qui ont besoin d'être pris en charge pendant un peu plus longtemps, d'avoir de l'écoute. Et moi, c'est ce que j'ai choisi de faire.
Ni un héros, ni un docteur j'abuse, ni un docteur galère. Un type qui fait son boulot, normalement, le docteur Dumazy. On commence avec lui parce qu'ils sont quand même assez nombreux. Ces médecins qui considèrent leur métier comme ça, comme un métier important, certainement, mais avec une dimension... morale, humaine, et malgré tout une certaine considération. Le capital social, c'est important, la considération qu'on peut avoir, recevoir quand on fait un métier, c'est quelque chose d'important. Et les revenus, je le disais donc en commençant, il n'y a pas plus de 10% des généralistes, le docteur Dumazy est un généraliste, qui pratique le dépassement en France, le bras de fer entre praticiens et gouvernement, toujours en cours, mais on voit bien que le fer du bras du gouvernement n'est pas bien dur, c'est un petit peu mou cette ferraille-là. Ça a quand même permis de remettre en question les dépassements d'honoraires qui quand même coûtent 2,5 milliards d'euros l'an dernier, sachant que la Sécu ne rembourse plus que 55% des soins de ville. Très franchement, entre nous, on n'avait pas très très bien compris qu'on était là en présence du sujet, le sujet fondamental de notre société, de toute société, c'est évidemment la santé. Tant qu'on a la santé, c'est la chose évidemment la plus importante du monde, et c'est un sujet évidemment éminemment politique que celui-là. Il n'y a pas d'autre approche possible que sous l'angle du politique pour savoir ce qu'on va faire de cette question fondamentale. Il y a eu ces glissements successifs, on a essayé de les expliquer vers les dépassements d'honoraires jusqu'à ces honoraires considérables. Beaucoup de témoignages nous racontent la visite chez le médecin qui va vous prendre 50 euros, 80 ou 100 euros tout en téléphonant à sa belle-sœur quelque part et en vous gribouillant une ordonnance sans vous avoir à peine regardé. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Et puis, il y a aussi des médecins comme celui-là qui prend le temps d'écouter les gens sans avoir d'ailleurs forcément une très grande compétence dans le domaine de l'écoute. Car au cours de ces interminables années d'études, il y en a bien peu d'études, bien peu de temps d'études consacrés à l'approche psychologique, humaine, du patient qui est là, celui qui est en face, qui est de l'autre côté du bureau. Alors c'est peu à peu que les médecins, avec un mélange de leurs propres convictions, de leurs valeurs et de l'approche de leurs patients, qu'ils vont savoir dire les mots, les choses qui vont peut-être débloquer une situation, tant il est vrai que nous ne sommes pas que des machines. Nous avons aussi des âmes. La psychologie n'est pas quelque chose qui nous est tout à fait étrangère. Et parfois, c'est quand même quelque chose qui est étranger à ce monde du soin et à ce monde notamment de la médecine. Je vous dis des banalités, mais c'est une chose quand même très très importante qui fermente et face à quoi, on l'a vu dans l'émission de jeudi et celle de vendredi, les pouvoirs publics sont très timorés et assez loin d'avoir le courage, ou en tous les cas la détermination, de défendre le système de santé qui avait été voulu, imaginé, rêvé et enfin réalisé par nos anciens, nos parents, nos grands-parents, selon votre génération, et qui peu à peu sont touchés, sont atteints peu à peu par cette poussée, cette pression des intérêts du libre-échange, des intérêts du marché. Vous avez compris de quel côté nous nous situons. Il faut le dire très clairement, mais au cas où vous n'auriez pas tout à fait compris, on est ensemble jusqu'à 16h dans la base, si j'y suis, le meilleur système de santé du monde.
Youpi, c'est le matin, quelle belle journée, disent mes voisins. Parle pour toi, animal, pour moi ça commence déjà mal. Je me sens fébrile, peut-être un mauvais rêve, pour les signes annonciateurs d'une petite grève. Allô, bonjour, c'est moi, monsieur Malpartout. Seriez gentil de me dégoter un petit rendez-vous. Une heure à tuer, d'accord, d'accord, merci. Le temps de faire un petit détour par la pharmacie. J'entrevois le grand sourire du pharmacien.
Bonjour.
C'est grâce à moi si t'as pu t'acheter ton beau terrain. Du Mac B30 en gélule ou en chewing-gum. Vous connaissez mes difficultés à fixer le magnésium. Oulala, migraine ophtalmique. Il faut que j'envoie mes yeux faire de la gymnastique. Orthoptiste, dis-moi qui est le plus beau. De mon strabisme ou de mon compère Lorio.
Il est toujours mal quelque part.
C'est marron grave, c'est super marrant.
C'est pas un petit peu.
Bah, je sais pas.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, docteur.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui?
J'ai des picotements, comme des fourmis rouges dans les jambes. J'ai l'impression que ça me bouche les artères.
Oui, je vois.
C'est très curieux.
Je vais vous prescrire du Lexo 3000.
Il y a un projet de création de maisons de santé.
Bah, les maisons de santé, c'est sans doute quelque part un peu l'avenir du fonctionnement de la médecine. Puisque bah, comme les coûts de fonctionnement sont effectivement assez élevés, que le problème à Paris, par exemple, des loyers se pose, hein, la solution, c'est de se regrouper. Alors d'ailleurs, nous, on est deux médecins ici. Moi, je dois avouer que c'est limite, quoi.
Pierre Dumazy.
La maison de santé, ça permet de regrouper divers intervenants de la santé, donc des médecins généralistes, des kinés, des infirmières, pourquoi pas des diététiciens, pourquoi pas encore d'autres intervenants, et puis des spécialistes, ça dépend l'orientation de la maison de santé, mais des spécialistes donc d'accès assez facile, bénéficier de subventions en plus, puisque du coup la maison de santé devient une forme de lieu où le quartier sait qu'il peut aller consulter. Une maison de santé, c'est visible, c'est repérable. Elle peut par exemple être ouverte de 8h du matin à 8h du soir avec un accès pour les consultations urgentes dans la journée permanent. Comme ça, il y a des médecins qui reçoivent sur rendez-vous et d'autres qui reçoivent en urgence.
Et là, on ne sort pas de la médecine libérale, donc c'est comme une coopérative, une mutualisation, hein, c'est ça, une mutualisation.
La mutualisation des moyens, bien évidemment. Voilà. Il y a des centres de santé où on est salarié, hein. La maison de santé, oui, c'est une mise en commun, mais il peut y avoir, avec le paiement forfaitaire, avec des missions liées à la ville, des missions liées aux communes, etc., on peut imaginer une rémunération différente, justement, à partir du moment où on prend en charge un bassin de population. Là, on voit bien l'intérêt qu'il y a pour tout le monde, population, médecins, pour faire fonctionner une santé disponible pour la population. C'est ça l'objectif. Certes, ce n'est pas encore le fonctionnement principal, mais c'est sans doute la voie la plus intéressante de développement de la médecine générale, en tout cas de la médecine générale. Encore une fois, la médecine spécialisée, c'est un petit peu plus compliqué. mais c'est possible de l'intégrer dans le système et dans le réseau. Voilà.
Frédéric Pierru, est-ce que, à votre connaissance, on a d'autres modèles d'assurance dans des pays comparables ?
En France, on a un système d'assurance maladie, d'assurance sociale. C'est le choix que l'on a fait. Hein. Alors, ce qu'on dit bismarckien, d'inspiration de Bismarck, c'est-à-dire un système d'assurance sociale abondé par des cotisations sociales et géré par les intéressés, par les partenaires sociaux, syndicats ouvriers et patronats. Mais dans des pays scandinaves ou en Angleterre, ils ont fait un choix différent. Ils ont fait un choix d'un système de santé public qui est à peu près comparable à notre éducation nationale à nous. C'est-à-dire que c'est un système complètement géré par l'État, financé par l'impôt, avec une enveloppe budgétaire votée par le Parlement, et l'accès est complètement gratuit. Donc vous accédez chez un médecin, par exemple un médecin de premier recours, un médecin généraliste, qui souvent n'exerce pas comme en France tout seul, en petit indépendant, hein, en artisan de la médecine, mais qui exerce quasiment dans des petites cliniques de médecine de ville, où il y a des infirmières, il y a des spécialistes, il y a des kinés, etc. Ce vers quoi on devrait aller.
Il en est question, les maisons de santé. Là,
oui,
on a
oui.
Un des médecins qu'on a rencontré qui milite pour les
Mais
maisons
de santé. Les maisons de santé, c'est une ouverture timide qui respecte à la lettre les principes de la médecine libérale. Et d'ailleurs, elles ne sont pas très viables économiquement parce que les médecins, ils sont payés à l'acte. Comment voulez-vous favoriser le travail collectif avec une rémunération purement individuelle des médecins? Il y a quand même une contradiction logique.
Or, vous nous dites qu'en Angleterre, dans ces petites cliniques, c'est un travail collectif.
C'est un travail collectif. Et pourquoi ? Parce que les médecins ne sont pas payés à l'acte, ils sont rémunérés à la capitation. Alors, qu'est-ce que c'est que la capitation, pour faire vite ? C'est chaque médecin, chaque patient s'abonne pour un an chez un médecin. D'accord ? Et pendant un an, il ne peut pas en changer. Et en contrepartie, le médecin reçoit une somme forfaitaire pour l'année. Pour ce patient. Alors cette somme forfaitaire, elle est ajustée sur l'âge. Évidemment, c'est pas pareil de soigner une personne de 70 ans et de soigner une personne de 20 ou 25 ans en bonne santé. Bon, donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce mode de rémunération peut faire une médecine beaucoup plus lente, parce que ça favorise pas les staccanovistes de l'acte. En France, vous avez votre rémunération est proportionnelle au nombre d'actes. Donc vous avez intérêt à faire des visites courtes, très prescriptrices en médicaments, etc. Alors qu'en Angleterre, c'est une médecine plus lente, et ces modes de rémunération, alors parfois c'est le salariat, c'est les centres de santé en France. Hein, il y a les maisons de santé qui sont, je dirais, la médecine collective pour la médecine libérale, hein, qui respecte les principes de la médecine libérale, mais vous avez les centres de santé où les médecins sont rémunérés au salariat, ces modes de rémunération sont beaucoup plus favorables à un exercice collectif. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée que de plus en plus, une prise en charge de qualité des patients nécessite un travail entre professionnels, pas seulement des médecins, mais ça peut être des nutritionnistes, des kinés, des infirmières, des gens qui se spécialisent dans l'éducation thérapeutique, etc., etc., notamment avec les maladies chroniques. Ça, c'est l'avenir. Mais nous, on est bloqués sur l'idée que la médecine doit s'exercer de manière indépendante, dans un petit cabinet, en solo, avec sa femme secrétaire, je caricature à peine, et pas dans ce genre d'exercice collectif. Bon, voilà.
Il y a quelques années, pourtant, on avait des reportages sur des Anglais qui venaient se faire opérer en France parce que le système de santé ne marchait pas du tout. Ça, c'est le système hospitalier.
Mais oui, alors déjà, là, on ne parle plus de la médecine de ville, on parle de la médecine de premier recours, on parle de l'hôpital. Mais le problème de santé, c'est pour ça que je vous disais en début, il n'y a pas de système parfait. Le système anglais, il est très décrié, mais il a des avantages. Mais il a aussi des inconvénients. Et l'inconvénient du système anglais, c'est qu'il a été très longtemps sous-financé. Et notamment, il a subi les attaques de Thatcher, puis des conservateurs. Pour le coup, Blair là, avait rompu avec cette politique-là, donc il a investi massivement. Mais pendant très longtemps, le système a été sous-financé. Et ça s'est traduit par des files d'attente. Notamment pour les soins hospitaliers, surtout pour les soins hospitaliers. Parce qu'en Angleterre, vous n'avez pas de spécialistes comme en France qui exercent en ville. Ils sont tous à l'hôpital. Donc si vous voulez des soins spécialisés, vous devez aller à l'hôpital. Or, comme les hôpitaux avaient des budgets... étaient contraints financièrement. Donc du coup, on a vu effectivement des malades anglais s'exporter pour venir se faire soigner en France. Mais ça ne remet pas en cause l'organisation même du système de santé britannique. Ça met juste l'accent sur son sous-financement chronique. Si on avait un système un peu à l'anglaise, avec les mêmes volumes financiers qu'on a en France, je pense qu'on aurait un système plus satisfaisant que le système actuel.
C'est une chanson sans calcium, chantée par un pauvre homme qui a mauvaise mine. C'est une chanson sans calcium, une chanson à la gomme qui manque de vitamines.
c'est une chanson, un virus.
Une chanson satanique.
Elle est épouvantable. C'est une chanson, pas dans le vent, qu'a besoin de fortifiant, tellement qu'elle est minable. Les paroles sont squelettiques, la musique rachitique,
pas question ça balance.
C'est une chanson sans gimmick,
complètement lymphatique,
c'est presque une ordonnance. C'est une chanson pas dans le coup,
c'est un genre de rock mou,
pas pour le hit parade. C'est une chanson à délier pour maison de santé, une triste salade. Le seul avantage qu'elle a,
cette chanson à blabla,
il est sur la pochette. Vous ne courez aucun risque, découpez sur le disque la petite vignette. Découpez-la soigneusement,
postez-la sur le champ,
faites-vous porter pâle. Et vous serez, croyez-moi, tous remboursés par la sécurité sociale.
Gennevilliers, rue Marcel Lamour, groupe médical Patrick Nauchy, docteur Martine Lalande, docteur Claire Souverville, docteur Nadia Pillon et docteur Wassila Kerfani. Consultation sur rendez-vous, visite à domicile. Bonjour.
Bonjour.
Alors ça,
on va avoir des bruits de casserole, hein.
La réunion du lundi midi.
Alors, c'est un centre médical ici, c'est ça ?
C'est un cabinet médical, un cabinet de groupe, comme on dit. C'est-à-dire, on est des médecins libéraux, quoi, hein, qui se sont mis ensemble pour ne pas travailler tout seul.
Et le midi, alors, vous déjeunez toutes ensemble ?
Non, le lundi midi.
Ah, le lundi midi.
Mais si, les autres midis, on déjeune, mais celles qui sont là, quoi. Alors, vous pouvez manger votre gâteau.
Merci.
Vous trouvez la rue Marcel Lamour, c'est quand même faites... assez fort. C'est facile à trouver.
C'est un lieu historique.
Alors, c'est un lieu historique ici,
c'est
vous
un
dites
lieu historique, parce que c'est dans ce bureau qu'a été tourné l'avortement de Histoire d'A en 72 ou 73. Parce que les médecins qui ont fondé ce cabinet ici en 73 étaient des médecins qui avaient fondé le MLAC, des médecins qui participaient au groupe Information Santé, des médecins qui ont fondé après Pratique, le syndicat de médecine générale et Prescrire. Et celui avec qui j'ai commencé à travailler, à qui appartient ce bureau-là, c'était Patrick Nauchy, c'était un des deux rédacteurs en chef de Prescrire.
Présentez-moi un peu ce cabinet. On est à Gennevilliers.
Oui, alors voilà, on est à Gennevilliers, dans au milieu des cités, dans une cité qui s'appelle les Agnettes. Et en fait, il y a un diagnostic qui a été fait social il n'y a pas très longtemps qui disait que 40% des ménages ne payent pas d'impôts dans le coin. Donc ça situe un peu le niveau socio-économique plutôt défavorisé. Et c'est une municipalité communiste qui a vraiment une politique importante vis-à-vis de la population, pour les jeunes, la culture, le sport, tout ça. En même temps, eux, ils ont fait le choix d'un grand centre de santé. Donc finalement, c'est moitié-moitié, quoi. Moitié libéraux dans des cabinets comme nous, moitié un très grand centre de santé qui attire beaucoup d'ailleurs les jeunes médecins, où les médecins sont salariés, où il y a des médecins spécialistes qui viennent de l'hôpital, et puis un peu tous les services, etc. Voilà. En 2006, en fait, ce cabinet s'est un peu éclaté. Les autres membres qui avaient mon âge sont partis dans des villes avoisinantes, et j'ai dû reconstruire le cabinet, et je l'ai reconstruit justement parce que j'étais maître de stage à la fac, que j'avais des copains qui étaient enseignants, et j'ai trouvé des jeunes médecins qui avaient envie de travailler comme nous, et qui sont venus s'installer, qui sont restés. Donc je travaille maintenant avec 4 jeunes femmes qui ont entre 30 et 35 ans. Alors que des femmes, puisque la profession s'est beaucoup, beaucoup féminisée. Et voilà, et des gens qui sont arrivés, des jeunes médecins qui sont arrivés en disant « Oui, oui, on a envie de travailler comme ça, ça veut dire prendre du temps, on a des consultations toutes les 20 minutes, des fois ça dure un peu plus longtemps, du coup on est en retard. Une pratique qui est ouverte sur la ville, dans un quartier où c'est très familial, très mêlé aussi. Il y a une immigration marocaine très ancienne, puisqu'il y avait les usines Chausson. » qui ont fait venir beaucoup de Marocains, qui après ont fait venir leur famille. Des gens très solidaires, mais avec beaucoup de difficultés. Il y a eu beaucoup de toxicomanie à un moment. On a dû s'en occuper parce qu'il y avait le sida, donc on s'est formé à toxicomanie. Beaucoup, beaucoup de femmes en difficulté, beaucoup de familles monoparentales. Bon, il y a des enfants qui sont touchés par l'exclusion scolaire, la délinquance, etc.
Ce patient a rendez-vous avec un chirurgien ORL. Il souffre de sinusite.
France 3.
Pour cette consultation d'un quart d'heure, il devra débourser 65 euros.
18 mai 2011.
Soit un dépassement d'honoraires de 20 euros.
C'est pas donné, évidemment. Ouais. Mais si on veut être bien soigné, je pense qu'on n'a pas le choix.
85% des chirurgiens, 53% des ophtalmologues ou encore 32% des pédiatres appliquent des tarifs libres. C'est ce que révèle une étude de l'assurance maladie qui s'inquiète de l'ampleur du phénomène.
Ça pose problème tout simplement parce que si vous n'avez pas de complémentaire ou si votre complémentaire ne prend pas en charge les dépassements d'honoraires, eh bien c'est l'argent qu'il faut sortir de la poche. Et si vous ne l'avez pas cet argent, mais alors, comment vous faites? Vous êtes obligé d'aller à l'hôpital public?
On va voir exactement.
Entre une tarification encadrée et des honoraires libres, la sécurité sociale plaide pour une troisième voie. Les médecins s'engageraient à réaliser un tiers de leurs actes au tarif de la Sécu. Le reste, facturé au tarif libre, serait plafonné.
On connaît les conséquences des dépassements d'honoraires qui sont évoqués dans ce petit reportage. Le problème de renoncement aux soins qui touche 15% des Français, essentiellement dans le domaine dentaire et l'optique, creusement des inégalités face à la santé, difficulté d'accès aux médecins, on a évoqué les déserts médicaux, 40% des Français, il faut le rappeler, n'ont pas de mutuelle ou sont mal remboursés par leur assurance complémentaire et doivent donc y aller de leur poche en cas d'honoraires libres. Tout ça n'est pas simplement des gens qui sont libres de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont fait des années d'études. Je répète encore une fois, ils ne sont pas les seuls. Mais là, rien de tout ça dans cet endroit où nous nous trouvons, à Gennevilliers, avec Martine Lalande, qui compare son métier de généraliste à quelque chose qui est entre l'artisanat et la coopérative. 25 ans en banlieue parisienne, une certaine expérience.
Alors Martine Lalande, comment vous analysez les protestations qui ont eu lieu dernièrement, qui s'opposaient au plafonnement des dépassements d'honoraires dans le secteur 2, et après celui des internes qui ont relayé, on va dire, un petit peu la contestation sur d'autres motifs, notamment celui de la loi 296 et d'une montée en force des mutuelles, quoi.
Ça ne m'intéresse pas, ce mouvement. Moi, je suis pour que tous les médecins soient en secteur 1. Moi, je serais pour qu'on soit payé autrement qu'à l'acte. Si on était payé autrement qu'à l'acte, on ne pourrait pas faire de dépassement. Moi, je pense que les médecins, on est vraiment objectivement salariés de la Sécu. Ça suffit. C'est vraiment une hypocrisie. Ce n'est pas les gens qui nous payent. Ils nous payent parce que la Sécu les rembourse. Donc ceux qui ne peuvent pas avancer l'argent, ils ne se font pas soigner. Et ceux qui peuvent avancer l'argent, c'est la Sécu qui nous paye à travers eux. Donc moi, je serais tout à fait d'accord pour être salarié de la Sécu. Et c'est tout. Alors après, est-ce que tout le monde travaillera bien? Si on est salarié de la Sécu, j'en sais rien. Mais en tout cas, les dépassements d'honoraires, non, moi je trouve ça scandaleux. Je n'ai jamais compris que ça existe et je ne vois pas pourquoi, comment on décide de combien on doit être payé quand on est médecin. Est-ce que les spécialistes doivent être payés plus que les généralistes? Est-ce que certains spécialistes doivent être payés plus que d'autres spécialistes? Est-ce que les médecins de ville doivent être payés plus que les médecins de l'hôpital? Pourquoi on ne décide pas qu'un médecin doit être payé comme un praticien hospitalier? Je sais pas, je crois que c'est entre 4 000 et 5 000 euros par mois au départ pour 35 heures. Et voilà, et tout le monde est payé comme ça. Dans les centres de santé, c'est ce qu'ils proposent aux jeunes médecins et ça leur va tout à fait. On fait 35 heures, on est payé un certain prix à l'hôpital, en ville, spécialiste, pas spécialiste. Et voilà, et on fait notre boulot. Alors après, il faudra des modes de contrôle. Le meilleur mode de contrôle, c'est le groupe de pairs. On devrait être le meilleur mode de formation, c'est le groupe de pairs. Et le meilleur mode de contrôle, c'est le fait que les gens travaillent collectivement ensemble en évaluant ce qu'ils font. À la limite de décider d'avoir un carnet de route, d'avoir des missions au départ, de voir comment ils les ont assurées finalement à la fin de l'année. Enfin, tout ça, c'est faisable. Je vois pas où est le problème. Donc l'histoire des dépassements, moi, ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas.
Il va sans dire que vous exercez dans le secteur 1.
Ah bah oui, bien sûr. C'est évident.
c'est évident.
C'est évident parce que le secteur 1, c'est le secteur normal, quoi. C'est la façon de prendre en charge les gens pour que la Sécu les rembourse de façon à ce que ce soit clair. Parce qu'en fait, si les gens nous payent, finalement, comme la Sécu les rembourse, c'est la Sécu qui nous paye. Je pense qu'il va falloir un jour qu'on nous propose d'autres façons de travailler. J'ai entendu parler de la capitation, moi ça m'irait bien ça. C'est-à-dire le fait d'être payé au nombre de patients que je suis. Parce que de toute façon, dès maintenant, je suis obligée de ne plus prendre de nouveaux patients. Donc heureusement, j'ai des jeunes collègues qui, elles, peuvent encore en prendre. Ça va vite poser problème quand d'autres médecins vont partir à la retraite. Il y a peut-être des gens qui ne trouveront pas de médecin traitant. Ça, c'est un vrai souci. Donc voilà, le paiement à l'acte, c'est un peu bizarre, quoi. C'est mon revenu, il est lié au nombre de consultations que j'ai fait dans la journée, alors que j'ai fait des choses très très variées dans les consultations.
Est-ce que ça ne va pas de pair avec la médecine libérale, le paiement à l'acte ?
Oui, alors moi, je n'ai pas choisi la médecine libérale, mais je n'ai pas choisi la médecine salariée non plus. La médecine telle qu'elle est, moi je dis c'est de l'artisanat ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, on fabrique notre lieu de travail, on l'organise comme on veut, on décide qu'on fait des réunions, qu'on fait de la formation, on se met d'accord pour les plages horaires, et on est finalement très souple. Le soir, on est ouvert assez tard, jusqu'à 8 heures. Le samedi, on est ouvert jusqu'à 2 heures de l'après-midi. L'accès est assez direct, les gens peuvent venir et on leur donne un rendez-vous assez vite. Notre petit artisanat là, il permet qu'on s'organise un peu comme on veut, en fonction du service qu'on pense devoir rendre à la population.
Frédéric Pierru, vous êtes co-auteur, je crois, d'un bouquin sur l'hôpital malade de la rentabilité.
Non, c'est ça, c'est André Grimaldi.
Ça, c'est André Grimaldi.
Et moi, l'hôpital en réanimation, parce que j'ai fait ça avec des anesthésistes réanimateurs. Donc on avait intitulé l'hôpital en réanimation.
Alors là aussi, le marché de la santé est en train de détruire l'hôpital.
Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a une entrée en force, il y a une expansion du secteur des cliniques privées, notamment parce que les petites cliniques artisanales des années 60, 70, voire même des années 80, ont été rachetées par des grands groupes financiers. On a vu apparaître des chaînes de cliniques, hein, Capio, la Générale de Santé, etc. Donc l'entrée des cliniques dans un capitalisme sanitaire agressif, hein, on va le dire comme ça, mû par des logiques de rentabilité, souvent à court terme, ce qui pose un problème. Mais ce qui pose, ça c'est pour le secteur privé, mais il y a un problème plus fondamental, c'est qu'on est en train d'importer dans le secteur public, à l'hôpital public, les méthodes de gestion du privé. Oh. Et c'est la fameuse tarification, notamment à l'activité. Et je pense que le vrai tournant de la politique hospitalière, c'est 2003-2004. Voilà. Là, vous avez des choix idéologiques qui ont été faits. D'ailleurs, ça m'a été dit comme tel par ceux qui l'ont conçu. Nous avons fait un choix idéologique, nous avons fait un choix politique. Nous avons décidé, par exemple, d'instaurer ce qu'on appelle la tarification à l'activité. Alors, j'explique peut-être brièvement ce que c'est. L'idée de la tarification à l'activité, c'est-à-dire qu'avant, les établissements étaient financés par une dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire ils recevaient un budget global, on dit ça, et puis c'était, quelle que soit l'activité, ce budget était reconduit d'une année sur l'autre. Donc les ressources de l'hôpital étaient sécurisées. Avec la tarification à l'activité, les hôpitaux reçoivent un budget proportionnel à leur activité. Alors cette activité, elle est mesurée par des groupes homogènes de malades, c'est l'équivalent de gamme de séjour, comme l'industrie automobile produit des gammes de bagnoles. Ben, un hôpital, ça produit aujourd'hui des gammes de séjours. Alors bon, donc vous en avez aujourd'hui une quantité, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est plus de 2000. Et à chaque type de séjour, on fixe un tarif qui est calculé statistiquement sur une base d'hôpitaux, 30 hôpitaux environ, un coût moyen. Et on dit à tous les hôpitaux, bon ben, pour ce type de prise en charge, vous devez, on vous verse ça et pas plus. Donc, soit vous avez trop, vous coûtez trop cher et vous vous réorganisez, vous virez du personnel, etc., pour arriver au coût moyen, soit, bon, voilà. Donc, une logique que je dirais productiviste. À l'hôpital, on pourrait même dire une forme d'industrialisation de la médecine hospitalière. C'est-à-dire l'idée que l'hôpital, ça serait une usine à soins techniques produits à flux tendu. Voilà, c'est un peu ça. Donc, une logique, c'est aussi ça qui menace le secteur hospitalier. C'est pas seulement, je dirais, l'agressivité des cliniques privées, commerciales. C'est aussi l'application d'une logique industrielle à la médecine hospitalière. Alors, ce que dit très bien André Grimaldi et d'autres médecins, vous pouvez industrialiser une partie de la médecine. Par exemple, la prothèse de hanche, la cataracte. Vous pouvez faire ça en série. Par contre, quand, et c'est pour ça que quelqu'un comme André Grimaldi est monté au créneau, quand vous êtes diabétologue.
C'est ce qu'on casse.
C'est pas un acte technique programmable, bien standardisable, c'est de l'éducation thérapeutique. Donc là, il y a une interaction humaine entre le médecin et son patient qu'il va devoir éduquer, en quelque sorte. Comment on prend, on mesure son taux de glycémie, bon voilà, les habitudes alimentaires. Et ça, si vous voulez, on pourrait prendre l'exemple de la psychiatrie. C'est pas par hasard que les deux leaders du mouvement de défense de l'hôpital public contre la loi Hôpital Patient Santé Territoire de 2009, c'était un diabétologue et un psychiatre.
Là, il est 15h15. J'ai pas fini mes sortants et il faut que les patients y rentrent.
Alors là, je suis obligée de...
France 2.
Bah, je me coupe en quatre. Voilà.
12 mars 2011.
Je réponds au téléphone. Je réponds à toutes les questions diverses et variées de tous les côtés. J'arrête pas. Voilà. On est passé depuis 2 ans maintenant à la T2A, la tarification à l'activité, qui fait que on est payé en fonction des soins qu'on apporte aux patients. Alors, ce qui veut dire que plus on a de patients et plus on a de l'argent. Alors, ce qui fait que maintenant, des hôpitaux, ils ne ferment pas de lits. Il faut que ça tourne, il faut qu'il y ait des patients qui viennent. Comme ça, ils auront un financement pour pouvoir s'occuper de ces personnes, quoi. Et c'est vrai que dans le mauvais côté de la chose, anciennement, on avait peut-être moins de patients et plus le temps de s'en occuper. Tandis que maintenant, on a beaucoup plus de patients et moins le temps de s'occuper d'eux.
Il y a des médecins qui sont très contents de la T2A. Parce que, par exemple, moi, j'ai un ami à la Riboisière qui est l'ancien chef du service de chirurgie orthopédique. Il dit, moi, avec la dotation globale, j'étais embêté parce qu'en novembre, j'avais consommé tout mon budget. Donc, comment je faisais pour soigner? Il me dit, avec la tarification à l'activité, j'opère beaucoup de gens, bah, je fais rentrer plein d'argent pour l'hôpital. Donc, eux, ils sont très contents. Mais il y a d'autres spécialités médicales qui, elles, sont pas du tout contentes parce que c'est un mode de tarification qui ne va pas. Donc, ce qui pose un problème, c'est cette espèce d'application mécanique d'une logique industrielle à la médecine hospitalière, quelle que soit sa nature. Et ça produit des soins déshumanisés. Parce que, d'abord, la T2A l'a fait plonger dans le rouge beaucoup d'établissements hospitaliers, de point de vue de leurs finances, notamment les plus gros, les CHU. Et qu'est-ce qu'a dit l'État à ces hôpitaux? Il a dit, bah, vous licenciez. 75% du budget d'un hôpital, c'est de la main-d'œuvre. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez retrouver des marges de manœuvre budgétaires, vous virez des gens. C'est ce qui fait qu'on a commencé à virer des infirmières, alors d'abord du personnel administratif, on a externalisé la logistique, etc. Mais aujourd'hui, on attaque l'os. Et donc, aujourd'hui, si vous êtes un patient et que vous rentrez mal dans les cases, vous posez un problème à cette chaîne de soins. Et non seulement vous posez un problème, mais vous n'allez pas recevoir des soins de qualité au sens où on va avoir de moins en moins de temps à vous consacrer pour discuter, pour vous rassurer, etc. Toute la part humaine. Ouais,
vous nous rassurez pas du tout, Frédéric. Vous nous rassurez pas du tout. Face à cette marchandisation, qu'est-ce qui s'oppose à ça? Quelles sont les résistances? Quels sont les groupes, les résistants, les figures? Alors, on a compris que vous en faites partie. Grimaldi en fait partie, etc. Mais indépendamment de quelques personnalités, on va dire, médiatisées comme ça, qu'est-ce qui s'oppose à tout ça?
Si je devais faire le stratège politique, dire sur quel point d'appui nous appuyer pour, en quelque sorte, restaurer les piliers du service public de la santé.
Voilà.
Bon, je pense que la première chose, c'est de s'appuyer sur les médecins généralistes. C'est-à-dire, la grande majorité des médecins généralistes sont attachés à la sécurité sociale. Ils ne font pas de dépassement d'honoraires. Et finalement, ont besoin de la sécurité sociale pour que leurs patients puissent accéder aux soins. Donc, il y a une frange là importante de la médecine libérale qui, en quelque sorte, est un allié objectif, si je dirais, de la sécurité sociale. Il y a aussi une partie aussi des spécialistes. Tous les spécialistes ne sont pas en secteur 2. Je pense que, évidemment, donc, les spécialistes en secteur 1 aussi sont des alliés potentiels. Et puis, il y a les médecins, évidemment, une frange importante de la médecine hospitalière publique. Bon, pas tous, hein. Il y a des médecins à l'hôpital public qui défendent une logique de rentabilité. Et puis, il y a évidemment les patients.
Bah oui.
Déjà, on pourrait dire qu'il y a les assurés sociaux. Mais c'est quand même assez étonnant, parce qu'on ne voit pas trop une mobilisation politique des assurés sociaux pour dénoncer la dégradation de l'accès aux soins. C'est-à-dire qu'on va pas... Vous voyez, quand on attaque le système de retraite, vous avez des défilés monstrueux. Mais comme l'assurance maladie, ça se défait petit à petit, ça se délite petit à petit, à coup de franchise, à coup de forfait, à coup de T2A, puis que c'est très compliqué, c'est très technique.
Oui, oui.
Donc les gens comprennent mal, en fait. Donc en fait, derrière, la politique avance masquée derrière la technique. Et donc les gens ont du mal à lire les transformations. Et donc du coup, ça affaiblit les mobilisations. Alors il est vrai que les patients, les associations de patients, sont un contre-pouvoir, mais même les associations de consommateurs. Hein. Paradoxalement, l'association l'UFC Que Choisir a mis sur la table le prix des mutuelles, les phénomènes de dépassement d'honoraires, etc. Bon.
Oui, mais on pourrait quand même compter là-dedans sur le pouvoir politique. Or, le pouvoir politique oscille entre couardise et timidité.
Voilà. Bon, déjà, le pouvoir politique, déjà, surtout en ce moment, il s'est complètement rendu à la rigueur et à l'austérité. Donc, là, c'est sûr que, vous voyez, je prends un exemple, les franchises médicales avaient été vertement combattues par l'opposition de gauche quand elles ont été créées. Aujourd'hui, plus personne ne parle de supprimer les franchises médicales, alors qu'on sait que c'est un fléau pour l'accès aux soins. Donc, au nom de la rigueur, en quelque sorte, on entérine les choix inégalitaires des gouvernements passés. Bon. Et puis, effectivement, le personnel politique, les hommes et les femmes politiques, il y a d'abord l'ignorance, comme leurs électeurs. Hein. Souvent, ils connaissent pas trop le sujet. Et puis, on dit que c'est un sujet qui touche les médecins, donc c'est délicat. Donc, l'ignorance, plus parfois la prudence, voire, pour reprendre votre mot, la couardise, fait qu'on va pas trop... on y va timidement, quoi. C'est-à-dire, on y va doucement. Et à la limite, on préfère dérembourser plutôt que de s'en prendre... aux intérêts des professionnels ou de l'industrie de santé.
Merci Frédéric Pierru, merci au docteur Pierre Dumazy, à Martine Lalande. Merci à tous, c'était le meilleur système de santé du monde. La suite du reportage d'Antoine Chao. Nous vous recommandons le livre de Frédéric Pierru, L'hôpital en sursis, des reçus sur le service hospitalier, écrit avec Bernard Granger, paru en 2012, septembre 2012 au Cavalier Bleu. Et puis le manifeste pour une santé égalitaire et solidaire avec Pierre Grimaldi, Didier Tabuteau, François Bourdillon et à nouveau Frédéric Pierru chez Odile Jacob. Et puis toujours la revue Pratique, les cahiers de la médecine utopique. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et laisser des commentaires. On vous fait confiance pour ça. Également sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et il y a aussi la page Facebook de l'émission. Aveline Carmois et Ronan Mahé étaient à la technique aujourd'hui. Lucie Akoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission. Et Marion Dupas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de la page si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Retrouvez Nicolas Stoufflet et votre émission culte avec l'almanach 2013 du jeu des 1000 euros.
Un livre qui vous propose de tester et d'enrichir vos connaissances tout en vous amusant. Vous y trouverez bien sûr tous les repères du calendrier, mais aussi un panaché de jeux, 800 questions de culture générale et mes petits trésors de France.
L'almanach du jeu des 1000 euros 2013, une coédition France Inter.
Un quart d'heure de bonne humeur quotidienne assurée.
France Inter présente Ernest et Célestine sur un scénario de Daniel Pénac avec les voix de Lambert Wilson et Pauline Brunner. Au cinéma, le 12 décembre.
Un ours et une souris, ça va pas.
Les ours en haut et les souris en bas, c'est ça?
Eh ben oui, depuis toujours, c'est comme ça.
Ernest et Célestine, une fable moderne et poétique où l'amitié l'emporte sur les préjugés et les différences. Retrouvez Ernest et Célestine, un film d'animation de Benjamin Reiner, Vincent Patard et Stéphane Aubier dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Les 14, 15 et 16 décembre au 104.
Destination Croatie.
Troisième rendez-vous des week-ends de Radio France.
7 concerts de musique pour célébrer l'entrée de la Croatie dans l'Union Européenne.
Un voyage musical le long des rives orientales de l'Adriatique.
Avec en ouverture un concert exceptionnel d'Ivo Pogorelic.
Information 01 56 45 16.
concert.radiofrance.fr
et 104.fr.
16h et presque une minute sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon. Salut.
Vous avez décidé d'en finir avec la vie, livrer les raisons de votre geste. C'est l'intitulé assez étonnant d'une rédaction de 3e. Le sujet a été donné par un professeur de français d'un collège de Charente le 22 octobre dernier. Sujet qui a fini par émouvoir les associations de parents d'élèves du collège. Ceux-ci ont alerté la direction départementale de l'éducation nationale et à l'instant le rectorat vient de l'annoncer. L'enseignant, âgé d'une trentaine d'années, vient d'être suspendu à titre conservatoire. Comment lutter contre la pauvreté et l'exclusion? C'est le thème d'une conférence sociale qui s'est ouverte à la mise aux journées à Paris. 7 thèmes sont débattus jusqu'à demain. Logement, emploi, accès aux minima sociaux ou enfance. Objectif, préparer un plan et une feuille de route pour chaque ministère concerné. Le taux de pauvreté atteint en France 14% en 2010, son plus haut niveau en 13 ans. C'est dans ce contexte que la ministre de l'énergie Delphine Batho annonce une augmentation modérée des tarifs du gaz, plus 2,4% 4% au 1er janvier, avec un coup de pouce pour les tarifs sociaux de l'énergie, 830 000 personnes supplémentaires vont pouvoir en bénéficier. Quant à Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation, il se dit prêt à revaloriser les salaires des profs. Le ministre veut ouvrir des discussions dès janvier prochain. 43 000 enseignants vont être recrutés en 2013. Et pendant ce temps, l'intérim en chute libre, selon des chiffres de Pôle emploi. En octobre, les emplois en intérim baissent de 3,5%, une baisse de près de 14% sur un an, ce qui revient à plus de 89 000 postes rayés de la carte. Le procès en diffamation de Valérie Trierweiler tourne à l'affaire politique. La compagne du chef de l'État attaque en justice les auteurs de sa biographie pour diffamation. Vous le savez, François Hollande a écrit au tribunal de Paris pour dénoncer les affabulations de certains passages du livre. Un mélange des genres qui a suscité plusieurs réactions à droite. Tandis que la défense dénonce une violation de la séparation des pouvoirs, elle a soulevé plusieurs questions de procédure qui seront examinées fin juin. Et puis c'est la dernière fois pour ce siècle, jour, mois et année vont afficher mercredi le même nombre pour former la date du 12 du 12 2012, l'occasion pour les superstitieux de jouer au loto, même si le 12 n'a, paraît-il, pas très bonne presse chez les numérologues. Le pompon, ce serait si mercredi la cagnotte du loto affiche 12 millions d'euros, et ce sera le cas si ce soir aucun joueur ne coche les bons numéros.
Au téléphone sonne ce soir l'aide aux sans-abri et aux mal-logés. Pour répondre à l'urgence, faut-il réquisitionner des bâtiments vides, comme veut le faire Cécile Duflot, la ministre du Logement? Vos questions, vos réactions, vos témoignages dès 17h au 01 45 24 7000 ou toute la journée sur notre répondeur 01 56 40 23 95 et sur franceinter.fr.
Le téléphone sonne Pierre Veil, ce soir sur France Inter, à partir de 19h20.
France Inter.
Il est 16h04 sur France Inter. Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Delphine Simon. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Gauthier Capuçon, violoncelliste, bonjour Gauthier.
Bonjour.
Et Nicolas Angelisch, pianiste.
Bonjour.
Tous les deux fameux, tous les deux extraordinaires, des carrières séparément magnifiques. Et puis là, vous alliez, c'est pas la première fois bien sûr, mais enfin vous allez jouer Salle Pleyel, et c'est très important, ce sera un très beau concert, j'en suis absolument persuadé, lundi 17 décembre à 20h. Et comment ça s'est fait? Qui est-ce qui a décidé de ça et qui est-ce qui parle le premier? Il est au taquet là, c'est voilà, c'est Nicolas.
On parle ensemble, et c'est exactement comment s'est fait ce concert et ce programme d'ailleurs.
Ensemble, je te laisse commencer. Voilà.
Allez Gauthier Capuçon.
Non, mais c'est tout simplement le plaisir de se retrouver. On a réalisé tout à l'heure que c'était notre premier récital à tous les deux à la Salle Pleyel. On y a tous les deux beaucoup joué, que ça soit en soliste, en musique de chambre, on y a joué en trio, en quatuor. Mais en récital, ça sera la première fois à Pleyel, voilà. Donc je me réjouis de partager ce récital avec Nicolas.
Voilà, moi aussi.
Avec qui on se retrouve très régulièrement. Mm.
Depuis combien de temps? C'est Lugano, non? Vous êtes croisés à Lugano?
Non, on s'est connus bien avant. Je crois que tu étais encore au conservatoire, mais tu jouais déjà beaucoup à l'époque.
Ça fait plus de 12 ans, je dirais.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Bon, alors, jeune fringant et toujours.
Vieille
très,
complicité.
Très fringant.
Voilà.
Moi, je dis jeune, il dit vieux. Bon, ça fait rien. En tout cas, vous êtes en pleine forme. La force de l'âge, du bel âge. On va entendre un extrait d'une sonate superbe de Gabriel Fauré. Bon, le programme pour lundi 17, c'est Beethoven, Shostakovich, Schumann et Brahms, mais ça n'empêche pas d'écouter un peu de Fauré. D'autant plus qu'il y a certains qui disent que, entre l'écriture de Schumann, de Brahms et de Fauré, il y a quelques similitudes harmoniques, notamment des couleurs d'accords.
Oui, il y a une espèce de. Il peut y avoir des connexions. Comme ça. Oui. Enfin, ça a du sens de mettre ces compositeurs et ces œuvres ensemble. Oui, tout à fait.
Mais voici l'allegro de cette deuxième sonate composée à partir de 1921.
Mmh.
conclusion de l'Allegro de la deuxième sonate pour violoncelle et piano, le premier mouvement, donc l'auteur Gabriel Fauré, Gauthier Capuçon au violoncelle et Nicolas Angelich au piano. Alors ouais, c'est de la musique tellement riche, tellement lyrique, mais qui finalement est assez peu connue, cette musique de Fauré, assez peu acceptée à l'étranger. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de ça. Enfin, on connaît de Fauré le Requiem, on connaît la sonate pour violon, et c'est peu difficile de faire admettre...
Le Quatuor, on joue beaucoup.
Ah, le Quatuor, tu dis.
Vous avez raison, c'est vrai que ces deux sonates, on les joue finalement très rarement.
Oui. Très peu, oui.
Et en Amérique, Nicolas, alors encore moins, j'ai peur de la réponse déjà.
Non, en fait, non. C'est en Amérique ou en Angleterre, il y a quand même une grande passion pour la musique française. Alors, je pense que ça doit être plus joué que ce qu'on pourrait croire.
Oui, je me souviens
ils aiment ça.
Seiji Ozawa a fait tout un...